Bertrand Badi, vous êtes entre autres politologue et spécialiste des relations internationales. Est-ce qu'on peut dire, Bertrand Badi, que votre fil rouge de tout votre parcours est d'une part les relations internationales, certes, mais aussi ce qui ne va pas dans les relations internationales?
Absolument. J'ai toujours été passionné par une idée qui était de montrer que les relations internationales étaient d'abord humaines et qu'elles s'adressaient d'abord à l'homme. Alors que toute la peinture qu'on nous offre des relations internationales, en tout cas depuis qu'elles ont été inventées dans leur forme moderne, c'est-à-dire 1648, la fameuse paix de Westphalie, consiste à présenter les relations internationales comme le produit de monstres froids, de stratèges, d'états dépouillés de sensibilité ou en tous les cas de rapport à l'humanité. Et puis peu à peu l'intrus, c'est-à-dire L'homme est entré dans les relations internationales. Il y est entré à travers aussi les sentiments d'indignation qu'il pouvait ressentir face à un certain nombre de catastrophes internationales. Et donc on s'est aperçu que les relations internationales, elles n'étaient marquées d'aucune exceptionnalité. C'était des faits sociaux comme d'autres.
Et comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi les relations internationales? Est-ce que c'est votre dernier livre qui est un peu la source, le commencement de votre parcours, le temps des humiliés?
Oui, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le fond même de la violence n'est pas à trouver dans la stratégie des princes ou des chefs d'État, aussi cruels fussent-ils, mais dans une sorte d'insatisfaction et de frustration que les sociétés ressentent non seulement à l'égard de leurs princes, mais à l'égard du monde. Et ceci est vrai depuis des décennies et des décennies, peut-être des siècles, mais particulièrement vrai en cette période de mondialisation. Et donc, j'ai considéré que l'humiliation était aujourd'hui le facteur belligène par excellence. Et que, à force d'humilier, on crée de la frustration, de la tension, de la violence, et on entre dans un cycle de l'intolérance qui ne s'arrête plus et qui aboutit à nos guerres d'aujourd'hui. Je suis quand même frappé de voir comment nos dirigeants traitent les pays du Sud, comment ils oublient des choses aussi essentielles que toutes les 3 heures, la faim dans le monde fait 2800 morts, comment chaque minute, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme dans l'indifférence générale. Et bien pour moi, les relations internationales, voyez-vous, c'est cela. Avant d'être la Corée du Nord face à la Corée du Sud, ce sont ces questions sociales internationales qui me paraissent être au centre de tout, et surtout à l'origine de tous les dangers. C'est une découverte que j'ai pu faire au fil de mes travaux de relations internationales. J'avais toujours l'impression qu'on restait à la surface des choses. Je me suis dit, creusons pour comprendre la vraie nature des relations internationales et donc découvrons le fondement social de tout ça. C'est donc bien une insatisfaction académique, intellectuelle, scientifique, mais c'est aussi une insatisfaction personnel. J'ai, par mon expérience humaine, par mon histoire familiale, pu vivre ou observer dans le parcours de ma famille ce qu'était l'humiliation, ou en tout cas une toute petite partie de ce qu'est l'humiliation, et cela a convergé avec ce constat plus scientifique, empirique, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc effectivement, Le temps des humiliés est un ouvrage qui compte beaucoup pour moi.
Vous parlez dans votre livre « Le temps des humiliés », de la maîtrise de l'amour-propre en relations internationales. Ou pour le dire de façon plus banale, comment gérer cet égo de tous ces diplomates qui n'arrivent pas finalement à passer outre et à chercher le bien commun? C'est de cela dont vous parlez?
Absolument, je dirais que c'est presque le malheur fondateur. C'est-à-dire que les relations internationales modernes sont fondées explicitement, ce n'est pas caché, sur l'idée d'intérêt national. Le jeu classique des relations internationales, c'est la compétition d'intérêts nationaux, et donc le propre de chaque État, à travers sa politique étrangère, c'est de défendre et de promouvoir son intérêt national. Donc, la science des relations internationales, c'est la science de l'ego. Et le comportement normal, c'est de protéger son ego. Alors, protéger son ego dans une situation où les concurrents, c'est-à-dire les États en compétition, sont égaux en niveau de développement économique, social, culturel, ça peut encore aller. Ça peut encore aller, c'est une formule assez cynique, parce que ça n'allait pas sans guerre. Mais ces guerres étaient comme contenues, circonscrites, et surtout l'un respectait l'autre. Quand on se faisait la guerre en Europe, on faisait toujours la guerre à son cousin, c'est-à-dire à son semblable. Tout ceci, donc, avait encore un sens violent, un sens inacceptable, mais un sens. Aujourd'hui, les relations internationales mettent en compétition non seulement des États, mais toute une série d'acteurs extraordinairement différents en niveau de développement. Comparez le PIB des États-Unis et celui de la Sierra Leone et vous comprendrez tout de suite. En culture, les cultures ne sont pas du tout les mêmes. Et si le jeu d'ego continue, eh bien la culture de l'autre, elle sera immanquablement jugée comme la culture de l'inférieur. Et vous-même, vous apparaîtrez dans votre ego comme celui qui, meilleur que les autres, doit, en quelque sorte, transformer le monde à sa propre image.
Bertrand Badi, j'ai quand même envie de vous poser comme question, comment pouvez-vous, vous, mettre en parallèle ce que vous dénoncez avec aussi les messages du pape François? Le pape François qui essaye de dire combien il faut sortir de soi, combien il faut partager, combien il faut être proche de l'autre et de l'autre différent. Il est allé à Lampedusa il y a quelques mois. J'imagine que tout ça ne vous laisse pas indifférent dans ce que vous écrivez.
Au contraire, j'ai été extrêmement frappé et séduit par les messages du pape François. Il y a tout un courant très fort dans l'Église qui prend conscience de cette modernité, de cet après-interétatisme. Et c'est normal, parce que tout à l'heure je parlais de la nécessité de ramener les relations internationales vers l'homme. Finalement, il y a deux philosophies qui peuvent ramener les relations internationales vers l'homme. C'est soit une philosophie héritée du socialisme et de l'internationalisme d'autrefois, soit une autre héritée du christianisme. Et le pape François, et déjà avant lui l'Église, sur des questions comme l'immigration, ont pris des positions extraordinairement modernes. Et ça, je crois que c'est extraordinairement important, extrêmement encourageant. L'immigration, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de l'homme. Le monde est à celle et celui qui bougera, c'est-à-dire nous sommes dans un monde de globalité, nous sommes dans un monde de mobilité, nous sommes dans un monde de visibilité, c'est-à-dire personne ne pourra empêcher le pauvre homme au Nigeria de voir l'explosion démographique et l'extraordinaire difficulté d'accéder à un emploi chez soi, et les possibilités qui sont offertes dans les pays où la population active ne progresse plus et où le PIB est incomparable et incomparablement supérieur à celui du Nigeria. Quel fantastique égoïsme de développer des politiques anti-migration. Égoïsme et inefficacité, mais on ferait beaucoup mieux de se demander comment organiser ce grand phénomène moderne ou postmoderne qu'est le déplacement des populations pour le bien de tous. On nous crée la peur parce que justement l'égoïsme auquel on faisait référence tout à l'heure conduit directement à la peur. Lorsque l'ego est menacé, eh bien on a peur et on fait peur. Mais sachons entrer dans un monde où justement la migration sera gouvernée, aidée, facilitée, favorisée. Si on arrive à faire des migrants heureux, on fera des migrants mieux intégrés. Et si on fait des migrants mieux intégrés, eh bien la migration ne sera plus un problème. Il y a des moments où la charité est utile. Si nous voulons que nous, et surtout nos enfants, connaissent la paix demain, eh bien, il faut créer les conditions de concorde avec l'autre. C'est tout le sens de ma vie et de mes publications que de montrer comment un monde plus intégré est finalement un monde plus utile et plus sûr.